Merci. Alors, je vais, dans un premier temps, vous dire comment j'en suis venu à travailler sur le lycée professionnel. Je vois que c'est toujours important de faire un rappel et surtout de montrer d'où est-ce que je parle. Et ensuite, je vous dirai un petit peu quels sont les points que je souhaite soulever avec vous dans cette intervention. J'ai travaillé sur le lycée professionnel pour une raison très simple, on va dire. C'est que après avoir exercé l'activité de conseiller d'orientation au collège pendant plusieurs années, j'ai remarqué évidemment que le collège était ce lieu où se joue en grande partie le destin des élèves. Et je me suis toujours demandé, posé la question suivante, au fond, est-ce que à la fin du collège, quand les élèves sont orientés, c'est comme ça qu'on utilise cette expression, au lycée professionnel, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de malentendu hein, qui entoure cette orientation dès lors que le discours dominant consiste à dire des élèves ne sont pas faits pour l'école, ils vont vers le lycée professionnel, comme si le lycée professionnel n'était pas encore l'école. Et donc cette expérience, je dirais, m'a amené aussi à m'interroger sur une autre question. Au fond, quand les élèves arrivent au lycée professionnel, qu'est-ce qui se joue dans cette expérience? Qu'est-ce qui amène ces élèves à vouloir plus ou moins se mobiliser? J'ai fait l'hypothèse, en quelque sorte, que ça n'est pas l'orientation en elle-même qui détermine la réussite, c'est surtout ce qui se fait au lycée professionnel qui a un effet plus ou moins mobilisateur sur les élèves, sans quoi on ne pourrait pas comprendre pourquoi des élèves, en grande majorité, ne choisissent pas le lycée professionnel et pour autant, une grande majorité d'entre eux réussissent son lycée professionnel. Donc cette question au départ était aussi à l'origine notamment de cette réflexion. Alors, de ce point de vue, je vais essayer de baliser un certain nombre de choses, parce que je crois que pour comprendre l'évolution et notamment de la professionnalité enseignante, il faut faire un petit rappel. Je ne vais pas m'attarder beaucoup sur l'histoire, ça a été dit effectivement hier par Vincent Troget, mais j'aimerais dans un premier temps finalement proposer une entrée que j'appellerais une entrée par les élèves, c'est-à-dire comment le lycée professionnel peut être appréhendé à partir de l'expérience scolaire des élèves. Hein, on l'a appréhendé à partir du travail des enseignants, de l'expérience scolaire des élèves, c'est une autre façon de voir. Dans un premier temps, les éléments que je souhaiterais soulever avec vous aujourd'hui, c'est d'abord qui sont les élèves du lycée professionnel. Approche sociologique, c'est-à-dire essayer de comprendre un peu quelle est cette population. Et je rappelle, par exemple, quelque chose de très intéressant, c'est que dans le livre de Baudelet-Stablé qui date d'il y a quelques années, donc c'était en 1989, dans le livre Le Niveau monte, les auteurs disent à un moment, ce qui nous a frappé dans les lycées professionnels, c'était autant effectivement ce qui différencie les élèves que ce qui les rapproche. C'est-à-dire, c'était une manière de dire, souligner que les élèves lycées professionnels, contrairement à une idée reçue, ne sont pas un public homogène, même s'ils proviennent majoritairement de milieux populaires. La deuxième entrée qui me semble importante, c'est que, au terme de ces observations en classe et en pratique ou en atelier, comme disent les élèves, au terme aussi d'entretien avec des élèves, je me suis très vite aperçu que leur mobilisation scolaire dépend au moins en partie du travail des enseignants. Du coup, ce que les élèves disent sur les enseignants de lycée professionnel est aussi quelque chose qui nous permet de comprendre leur mobilisation. Alors, je dirais tout à l'heure un mot parce que les enseignants de lycée professionnel, en général, disent nos élèves fonctionnent à l'affectif, c'est ce qui explique aussi notre travail. Et en réalité, c'est un petit peu plus compliqué. C'est peut-être aussi parce que c'est le seul moment où certains élèves réalisent qu'ils peuvent réussir et en même temps, ils réalisent aussi que l'on tient compte de leurs différences et de leur subjectivité. Ensuite, troisième élément que je voudrais évoquer avec vous, alors ça paraît un peu exhaustif, c'est un peu cette enquête sur l'abandon au lycée professionnel. J'en dirai un mot parce que vous aurez des documents pour ceux qui le souhaitent, dans la mesure où c'est une thématique qui apparaît récurrente dans les lycées professionnels. Comment expliquer l'abandon? Est-ce que l'abandon, c'est pas un terme plus approprié que le décrochage? Nous avons utilisé l'abandon, je vous expliquerai aussi pour quelles raisons. Et enfin, le quatrième point que je soulèverai avec vous, c'est la question de l'avenir du lycée professionnel, et avec un certain nombre d'enjeux que je essaierai de présenter sur le mode, finalement, d'un certain nombre de questions, de questionnements. Alors, la première chose qu'on peut dire, c'est que le lycée professionnel connaît une évolution très rapidement, qui est que le baccalauréat professionnel est devenu la référence. Alors, effectivement, depuis 1985, le bac professionnel a contribué à la valorisation du lycée professionnel, et ça s'est fait en même temps que l'on a dévalorisé le CAP. Hein. C'est-à-dire qu'il y a effectivement cette tension. Hier, Vincent Troget a parlé effectivement de l'histoire de l'enseignement technologique et de l'enseignement professionnel plus particulièrement. Mais il faut savoir aussi que, si on veut comprendre un peu la logique, c'est que quand on a créé le bac pro en 85, c'était à un moment où les effectifs des élèves de lycée de BEP avaient largement dépassé les effectifs de ceux de CAP, et donc on a un peu minoré le CAP. Ce qui arrive au BEP aujourd'hui, puisque c'est un diplôme amené effectivement à disparaître, mais en tout cas il est plus aussi visible, c'est un peu ce qui est arrivé au CAP dès le début des années 70. Et ces effectifs montrent à l'évidence que il y a un changement dont on n'a pas forcément pris la mesure. Je prends un petit tableau qui montre un peu l'évolution du public du lycée professionnel. Qu'est-ce qu'on remarque? 1980, vous aviez 800 000 élèves dans la voie professionnelle, un peu plus d'un million dans la voie technologique, seconde générale technologique. Et quand on passe en 1990, déjà, on voit qu'il y a une petite baisse des effectifs de lycée professionnel au profit d'une augmentation des effectifs de la seconde générale technologique. Et là, se passe quelque chose de particulier, c'est qu'une partie des élèves qui allaient vers le lycée professionnel auparavant vont vers la filière technologique dès les années 90. Une partie donc de ces élèves, et donc les élèves qui arrivent au lycée professionnel en 2006, une partie d'entre eux sont des élèves qui n'auraient pas pu entrer au lycée professionnel dans les générations antérieures. Donc une évolution qu'on peut résumer de la manière suivante. Le public de lycée professionnel se transforme, évolue, parce que c'est un public qui auparavant n'aurait pas pu aller jusqu'à ce niveau de formation, puisque la politique de l'éducation nationale, c'est la formation effectivement d'un public de niveau 5, 100%, et donc ça induit quelque chose de nouveau. Alors qu'est-ce qui est nouveau? C'est l'hypothèse que je soumets aujourd'hui, c'est qu'en fait, une partie des élèves qui arrivent au lycée professionnel sont des élèves qui sont scolairement plus en difficulté que les élèves des anciennes générations. Ce qui explique aussi l'incompréhension qu'on peut avoir dès lors que les référentiels deviennent plus scolaires, tandis que les publics scolaires, en partie, sont un peu plus réfractaires vis-à-vis des savoirs de la théorie. D'ailleurs, on voit bien hier dans l'enquête qui a été menée en Loire-Atlantique, comment des élèves sont à la fois motivés pour poursuivre des études et en même temps une certaine réticence vis-à-vis de la théorie. Donc cette évolution est une des premières choses qu'on peut remarquer par rapport donc au lycée professionnel. Alors, on peut dire finalement que cette évolution conduit à ce que j'ai appelé finalement une scolarisation de l'enseignement professionnel. Cette scolarisation, alors c'est un peu le fait que les savoirs deviennent plus scolaires, même si en même temps, avec la réforme Bac Pro, on a conforté les stages en entreprise comme une manière de professionnaliser. Donc en fait, je parle beaucoup plus des contenus de formation au sein du lycée professionnel. Et donc deux choses qui sont importantes. C'est que la scolarisation s'est faite de deux manières. La première, c'est que l'intégration de l'enseignement professionnel dans l'éducation nationale a conduit historiquement à une certaine dévalorisation de la voie professionnelle, qui, heureusement, j'ai envie de dire, avec cette réforme, a eu un effet plutôt qui a été relativisé. On le voyait notamment avec l'enquête d'hier. Mais bon, ça veut dire que l'éducation nationale, dès lors qu'elle intègre l'enseignement professionnel comme une de ses missions, se pose la question effectivement du prestige ou du niveau d'égalité ou de dignité des formations. La deuxième, c'est la scolarisation des contenus de formation. Alors il y a des collègues, par exemple, comme Stéphane Bourg, qui utilisent l'expression déprofessionnalisation. Ils disent finalement c'est une déprofessionnalisation de la voie professionnelle. Et en même temps, ceci montre à l'évidence que la logique scolaire n'est pas exactement la même que la logique professionnelle. Alors sur les CAP, comme sur les autres formations, on peut remarquer aussi que les élèves de lycée professionnel proviennent majoritairement de milieux populaires, on l'a dit. Sauf que, en sociologie, on a toujours été habitué à dire que lorsqu'on vient de milieux populaires, enfin à dire, à constater depuis les travaux de Pierre Bourdieu, que les inégalités scolaires, les inégalités sociales engendrent des inégalités scolaires. Hein, effectivement, il y a des différences d'origine sociale qui pèsent sur le rapport au savoir, à la formation. Une différence de taille, le lycée professionnel connaît aussi une hiérarchie des formations. Et donc cette hiérarchie des formations donne lieu aussi à une hiérarchie subtile, elle n'est pas très visible. Mais en tout cas, il y a des différences sociales qui apparaissent dès lors qu'on a affaire à des filières plus sélectives. Et donc la hiérarchie scolaire, elle concerne aussi le lycée professionnel. Il ne faut pas opposer le lycée professionnel à la voie générale et technologique. Il faut aussi analyser l'intérieur des établissements scolaires, les formations, dont le prestige, il est aussi lié à une histoire. Alors par exemple, peu d'élèves de lycée professionnel aspirent à devenir ouvriers. On ne peut pas comprendre cette faiblesse d'aspiration pour le devenir ouvrier si on ne fait pas référence à l'évolution du marché du travail et à la tertiarisation des emplois. Donc il est évident que ça a un effet important. Alors, pour information, quand on voit les filières, donc là c'était en 2006, les chiffres du ministère, la forte proportion des enfants d'employés ouvriers, et quand on remarque de façon assez subtile, c'est qu'à l'époque déjà, on voyait bien que les ouvriers étaient légèrement moins nombreux en bac pro qu'en BEP. Et par contre, si vous prenez les employés, c'est plutôt plus important, plus en monde dans la formation, dans les niveaux de formation. Et puis, à titre d'information, la part des enfants d'enseignants au lycée professionnel est extrêmement faible. On voit par exemple les chiffres ici qui sont très très bas. Alors, on peut dire ici que question qu'on va se poser, c'est que cette évolution du lycée professionnel transforme, change d'une certaine manière avec le changement des élèves, c'est-à-dire que l'évolution du public scolaire amène à une nouvelle professionnalité, l'exigence d'une nouvelle professionnalité chez les enseignants, et je dirais aussi une transformation des missions du lycée professionnel. Alors je vais résumer pour bien illustrer cette idée, je vais l'illustrer par l'idée suivante, ou par la comparaison suivante. C'est que jusqu'au milieu des années 70, on allait au lycée professionnel parce qu'on était fils ou fille d'ouvrier. C'était un peu ça voilà, on allait au lycée professionnel parce que c'était presque une sorte de vocation, continuité, une sorte de reproduction, mais reproduction plutôt positive. C'est pas la reproduction au sens où on reproduit les inégalités. C'est que on allait au lycée professionnel parce que on était assuré d'une certaine manière que on allait pouvoir devenir ouvrier qualifié et pourquoi pas connaître aussi une promotion. Puisque la promotion à l'interne a bien fonctionné pendant quelques décennies. Et donc, c'était cela, finalement, le devenir des élèves. Et je me souviens, par exemple, un enseignant qui me dit, qui était agrégé de physique, et qui me dit combien ses parents ont eu du mal à comprendre pourquoi il a choisi la voie générale alors qu'ils auraient voulu qu'il devienne ouvrier. C'était un peu dans la culture, si vous voulez, familiale. Bon. Et donc, ça, c'est jusqu'au milieu des années 70. À partir de la massification, et notamment la seconde massification milieu des années 80, avec le développement du chômage et avec l'indignité qui va frapper de plus en plus les métiers dits traditionnellement manuels, eh bien, l'orientation n'a plus le même sens. On va au lycée professionnel parce qu'on est en échec au collège. Donc, si vous voulez, cette évolution induit aussi, justement, un rapport contrarié à la formation et aux études. Et du coup, qu'est-ce qu'on constate? C'est que c'est à partir de ce moment-là que les élèves arrivent au lycée professionnel un peu plus âgés et qu'en arrivant plus âgés, le lycée professionnel n'a plus seulement la vocation de former des futurs ouvriers, des futurs employés aujourd'hui, plus nombreux, il a aussi pour vocation de réparer, ce que j'ai utilisé cette expression, transmettre et réparer. C'est un lieu de formation, mais c'est aussi un lieu de resocialisation des élèves, de préparation de la maturation des jeunesses populaires. C'est un peu ce qui s'y apparaît notamment aussi avec les entretiens et les observations menées auprès des enseignants. Alors pour cela, je vais prendre un exemple. Là encore, j'ai été frappé dans tous les lycées professionnels dans lesquels j'ai enquêté. Alors nous, dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est une région qui est traditionnellement ouvrière et le taux d'orientation vers la voie professionnelle, il est presque de 35% en fin de troisième. Donc, si vous voulez, il y a une histoire déjà locale qui explique aussi le fort taux de scolarisation dans la voie professionnelle. Et donc, j'ai été frappé par une chose, c'est que les enseignants lycée professionnel, en général, ne sont pas dans l'opposition entre enseigner ou instruire et éduquer. Ils ne sont pas dans cette opposition, même s'ils se plaignent en disant « nous sommes obligés de faire de l'éducation avant de pouvoir enseigner, nous sommes obligés de faire de la discipline, nous sommes obligés de tenir compte des difficultés des élèves », on verra un exemple tout à l'heure. En même temps, il faut faire avec. Et donc, ça conduit à l'idée selon laquelle l'enseignement, c'est aussi de l'éducation, L'enseignement, c'est aussi de l'accompagnement, y compris quand ça peut se traduire par des l'usure professionnelle. Donc effectivement, la contrainte et la charge de travail n'est pas la même. Et les enseignants disent pratiquement tous qu'ils ont de moins en moins affaire à des collectifs d'élèves qu'à des individualités. Hein, donc c'est cette forme, si vous voulez, d'effet notamment lié à l'évolution du public. Et donc, ce qui est frappant, c'est que les enseignants au lycée professionnel, de façon très générale, se plaignent bien sûr du niveau faible des élèves, mais ils disent davantage leur étonnement quand ils ont affaire à des élèves en très bonne réussite ou de bon niveau. Alors j'ai eu par exemple dans les entretiens des enseignants qui disent « je comprends pas pourquoi cet élève est ici, il y a eu peut-être une erreur d'aiguillage », comme s'ils avaient intériorisé le fait qu'ils ne travaillent qu'avec des élèves en difficulté. Et du coup, ils sont à l'inverse, à l'opposé de ce qu'on peut voir dans d'autres structures d'enseignement, lycée général, où on se dit « qu'est-ce qu'ils font ici ces élèves ?» C'est pas leur voie, donc eux, ils ont intériorisé ce que les sociologues appellent l'image du client idéal, j'y reviendrai tout à l'heure, tandis qu'en lycée professionnel, c'est cette idée qu'on travaille d'abord avec des élèves qu'il faut remotiver, qu'il faut remobiliser. Et donc, un exemple aussi, une enseignante de lettres histoire qui me dit dans une enquête, c'est ici, l'important, c'est pas ce qu'on apporte aux élèves, c'est pas la transmission des savoirs, c'est d'abord ce que nous sommes comme individus. Donc cette notion de la relation qui devient effectivement importante et déterminante. Alors bien sûr, je passe un peu sur ce tableau parce que ça montre l'évolution des effectifs, si vous voulez, mais ça, vous pouvez l'avoir par ailleurs, des enseignants. Et donc on peut dire ici, voilà, les évolutions qui ont conduit à transformer le travail de l'enseignant, ça veut dire que les enseignants et les équipes éducatives des lycées professionnels ne sont pas finalement indépendants de ce qui se passe en dehors du lycée professionnel. Hein, le sens des études se traduit aussi, est aussi porte l'influence de ces évolutions. Alors, parmi les évolutions rapidement, il y a bien sûr l'enseignement professionnel, la tertiarisation des emplois, qui conduit par exemple à rendre les métiers de plus en plus invisibles. Hein, par exemple, ça, c'est assez surprenant, ça peut surprendre, quand on rencontre des élèves, des entretiens, on dit finalement, votre formation elle débouche sur quel métier ? Difficulté à l'identifier, surtout quand il s'agit des métiers du tertiaire. Donc la visibilité des métiers ou des activités professionnelles ne va plus de soi. Les parents aussi, parfois, ne comprennent pas. Ils disent finalement, voilà, il est dans une formation, mais je ne sais pas finalement sur quoi ça débouche. Donc parce que c'est plus le même modèle, hein, c'est plus les mêmes intitulés, c'est plus les mêmes contenus. Difficulté à savoir, à comprendre ce qui se passe dans le lycée professionnel. Et donc, c'est pas la même chose que de dire les parents se désintéressent de ce qui se passe au lycée professionnel. Donc ça, c'est un élément. Mutation donc de la classe ouvrière, sens des études OLP. Donc les élèves de lycée professionnel doivent aussi donner un sens aux études. Je vais y revenir. Parce que le sens ne va pas de soi. Et donc, par exemple, c'est tout le discours des élèves sur l'utilité des savoirs, à quoi ça sert. Donc, cette question d'utilité qui apparaît de plus en plus importante, sans doute aussi parce que les savoirs ne font pas forcément sens et parce qu'il n'y a pas forcément de continuité à ce qu'on vit dans le lycée professionnel et la vie en général. Alors, sur le chômage, on peut dire... Il y a une évolution. C'est vrai, quand on compare les chiffres, on s'aperçoit que le taux de chômage est important et surtout qu'il touche plus les ouvriers et les employés que les autres catégories. Mais là aussi, une nuance, on a autant d'élèves, pratiquement des élèves qui disent finalement les études, c'est pas forcément utile puisqu'on aura des difficultés d'insertion professionnelle. Et on a à l'inverse des élèves qui disent puisqu'il y a du chômage, il vaut mieux que je poursuive des études. Donc en fait, il n'y a pas forcément de relation de cause à effet. C'est la nature, si vous voulez, de la relation qui va se jouer dans le lycée professionnel, de ce qui va se jouer en dehors, qui explique aussi cette mobilisation. Alors, du coup, on peut faire l'hypothèse suivante, c'est que le lycée professionnel apparaît aussi comme une école de la deuxième chance. Alors, je reprends cette expression parce que ça peut paraître paradoxal de dire, puisqu'on sait maintenant qu'il y a différentes structures qui voient le jour, qui sont d'ailleurs des structures de l'ordre de l'innovation pédagogique, pour dire il faut sauver des élèves, sauver des publics, bon, lycée autogéré ou autre. Mais en même temps, on peut faire l'hypothèse suivante, c'est que l'institution scolaire est aussi, d'une certaine manière, une institution qui se contredit. C'est-à-dire que d'un côté, il y a l'idée qu'il faut valoriser la voie professionnelle, et de l'autre côté, il faut valoriser aussi la poursuite des études. Et donc... Ce qui se passe, c'est qu'on peut faire l'hypothèse que le lycée professionnel, c'est à la fois un lieu qui accueille des élèves, en général, plutôt qui ont connu quelques difficultés scolaires, mais en même temps, c'est un lieu qui est censé y remédier. Et donc, censé y remédier, c'est pas dit forcément officiellement, mais je me souviens par exemple quelque chose qui m'avait frappé quand j'avais regardé un peu sur les référentiels, où je voyais par exemple que l'enseignement d'histoire doit aussi permettre aux élèves de se structurer, hein, cette idée de se structurer. Donc ça suppose que c'est un public qui n'est pas structuré. Donc l'idée selon laquelle les savoirs contribuent aussi à la formation des individus, et c'est aussi une manière de permettre aux élèves de se reconstruire, hein, c'est d'ailleurs cette expression, reconstruire, et donc apparaît aussi comme une forme de nouveau départ dans la carrière scolaire. Alors sur les élèves, donc je disais tout à l'heure, je vais passer un peu sur ce point, plutôt issus du milieu populaire majoritairement, plutôt plus de garçons que de filles, hein, on a des statistiques, mais ça, bon, c'est des choses que vous savez, et donc j'en viens à un point important, toujours sur concernant l'orientation. Donc, ce que j'ai appelé finalement dimension de l'orientation au lycée professionnel. Alors, il peut paraître paradoxal d'avoir un système scolaire qui oriente sur des compétences scolaires vers des formations professionnelles. Hein, c'est-à-dire que l'élève qui veut faire CAP coiffure, on en parlait tout à l'heure, ou d'autres formations, va lui dire, il faut que tu sois bon dans certaines matières, ça va te donner des points pour pouvoir être pris lors de l'orientation. Donc du coup, les notes prennent le pas, d'une certaine manière, sur le projet. Et de ce point de vue, petite observation, les élèves qui choisissent l'orientation, ils peuvent parfaitement avoir des projets professionnels précis, sans pour autant avoir de projet scolaire. Hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir des élèves qui ont un projet professionnel, ils veulent faire un métier, bon, et en même temps, l'école ne fait pas sens. Et inversement, il y a des élèves qui n'ont pas de projet professionnel et qui réussissent très bien à l'école. Hein. D'ailleurs, quand on voit les étudiants à l'université, j'ai fait une enquête il n'y a pas longtemps sur les étudiants, la chose la plus surprenante, c'est que plus ils avancent dans les études, moins ils ont de projets précis. Hein. Ce qui montre quelque chose d'assez particulier. Donc c'est pas vraiment le projet professionnel qui contribue à donner du sens au savoir, alors qu'on pourrait croire qu'il faut d'abord mobiliser des élèves sur des compétences professionnelles pour qu'ils donnent un sens au savoir, le français, l'histoire, etc. C'est beaucoup plus compliqué. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de lien. D'ailleurs, j'ai rencontré des élèves qui ont commencé à se mobiliser à l'école parce qu'ils étaient en confiance et ils réussissaient quand ils faisaient leur stage, quand ils étaient en pratique. Mais la relation ne va pas de soi. Et donc, les notes contre le projet, ça veut dire que la logique scolaire prime dans l'orientation, ce qui peut aussi induire effectivement des déceptions, sans pour autant aller jusqu'à dire, et ça je soutiens et je le maintiens puisque je dispose d'un certain nombre de matériaux qui permettent de le démontrer, jusqu'à dire que l'orientation détermine la réussite ou l'échec scolaire. La deuxième chose aussi qu'il faut relever, c'est que dans la mesure où il y a une hiérarchie des formations au lycée professionnel, eh bien cette hiérarchie peut renforcer ou atténuer le sentiment d'être relégué. Par exemple, pour l'élève de lycée professionnel, je dirais la situation la plus critique, c'est quand il réalise qu'il peut être aussi en échec en lycée professionnel, alors même que dans le discours dominant, aller au lycée professionnel est supposé être un lieu de formation où les choses vont aller de soi. Eh bien non, il découvre qu'il y a encore de la théorie, qu'il y a de la technologie, qu'il y a des savoirs, qu'il faut se mobiliser, et donc cette tension peut aussi renforcer le sentiment de relégation, surtout quand on est dans des formations qui sont les moins convoitées. Alors à ce titre, je fais un parallèle avec ce que montrent Stéphane Bourg et Michel Pialou dans leur livre « Retour sur la condition ouvrière ». Et c'est vrai qu'il y a des passages très éclairants. Dans ce livre, il montre bien comment la hiérarchie des filières finit par devenir une hiérarchie de perception de soi. Hein. C'est-à-dire que les élèves peuvent intérioriser les classements qui sont des classements institutionnels et qui, paradoxalement, ne correspondent pas toujours au classement professionnel. Hein. Un exemple plus banal, quand j'ai rencontré des élèves de filières comme structure métallique à l'époque, je disais finalement, on est ici, on n'a pas de choisi, d'autre orientation, alors même que c'est un secteur qui, en termes d'emploi, est un secteur qui offre plus de débouchés que d'autres spécialités qui sont plus convoitées. Donc il n'y a pas forcément, si vous voulez, de correspondance entre la logique des adultes quand ils disent « va dans cette formation, il y a de l'emploi » et la logique des jeunes ou des élèves qui ont d'autres aspirations. Hier, Vincent parlait effectivement de l'image des métiers qui entrent en compte, mais aussi on peut évoquer les salaires, la reconnaissance des statuts, etc. Dernier point qui paraît important par rapport à cette orientation, il me semble, et c'est une hypothèse que j'ai formulée, que les élèves, quand ils sont confrontés à des activités professionnelles, à des activités technologiques, c'est aussi ce qui permet de former de nouveaux projets. Hein. Donc le fait d'être confronté à l'école permet aussi la formation de nouveaux projets, et il n'y a pas seulement le projet initial, parce que nous raisonnons toujours comme ça. On a un projet, puis on rentre en formation. Il faut aussi se dire qu'est-ce que les savoirs, qu'est-ce que la formation fait aux individus, ce qui permet aussi l'émergence de nouveaux projets, de nouvelles aspirations, par exemple. Alors, sur l'orientation, c'est toujours important de voir un petit peu les taux de pression. Alors, j'ai pris un exemple pour nous dans l'Académie de Lille où on voit, par exemple, que l'élève qui veut faire coiffure, eh bien, taux de pression, il y a 4 demandes, presque 5 demandes pour une place. Il y a des formations comme dessinateur, graphique, etc., qui sont très convoitées. Dès qu'il s'agit de formations plus industrielles, ça l'est moins. Si on avait électrotechnique, on aurait un peu plus de, si vous voulez, de demandes. Donc, voilà. C'est-à-dire que cette hiérarchie, elle renvoie aussi à une hiérarchie des métiers, une hiérarchie aussi du taux de sélection. Alors, à ce titre, c'est toujours important. D'ailleurs, c'est un des enjeux aujourd'hui. Tout à l'heure, je disais, je présenterai un petit peu sur l'avenir du lycée professionnel, quelques problèmes qui se posent. C'est que le lycée professionnel a toujours été concurrencé par deux choses, deux réalités, la voie générale, mais aussi l'apprentissage. Hein. Et quand on prend l'apprentissage en alternance, eh bien, curieusement, les formations les plus proposées dans les centres de formation d'apprentis sont celles qui sont les plus en vue par les milieux professionnels. Et donc, c'est l'inverse en lycée professionnel. Donc, c'est ce qui m'a amené à dire, effectivement, il faudra faire attention parce que les formations OLP peuvent très bien aussi être disqualifiées par le marché du travail. Et du coup, ça pose des vraies questions, notamment questions sur la possibilité d'émancipation des publics scolaires dès lors que les formations qui sont préparées au lycée professionnel débouchent moins sur les possibilités d'insertion. Alors, quand on prend les élèves, voilà, donc je livrerai tout à l'heure un peu l'enquête. Alors, je parle ici à partir de plusieurs enquêtes, en fait. Hein. Il y a une première enquête qui a été menée auprès d'élèves de lycée professionnel, à partir d'une question très simple, c'est-à-dire demander aux élèves pourquoi ils viennent au lycée professionnel, qu'est-ce que c'est qu'apprendre pour eux, qu'est-ce que c'est que travailler à l'école, quels sont leurs projets, quelles sont les matières ou les moments où ils pensent apprendre, quelle relation y a-t-il entre le stage en entreprise et le lycée professionnel, enfin toutes les questions qu'on pouvait énumérer et qui permettent de rendre compte de la manière dont se joue cette orientation et cette intégration au lycée professionnel. Et donc ce qui apparaissait ça c'est une enquête, d'autres enquêtes aussi sur lesquelles je m'appuie, c'est effectivement dès lors que je me suis aperçu que les enseignants, les élèves du lycée professionnel distinguent nettement les enseignants du lycée professionnel de ceux du collège, je me suis demandé finalement est-ce que leur rapport au savoir ne doit pas aussi aux pratiques pédagogiques. Donc il a fallu aussi s'intéresser aux pratiques pédagogiques des enseignants. Et donc, ça c'est un deuxième type d'enquête qui a été menée. Troisième enquête, c'était sur les ruptures scolaires, puisque on a été amené aussi, on dit quelques-uns, à travailler sur les raisons qui amènent des élèves à quitter le lycée professionnel. Donc la question qu'on a appelée l'abandon. Donc enquête aussi auprès d'élèves qui ont quitté le lycée professionnel sans avoir préparé le diplôme ou sans l'avoir obtenu à la fin. Donc c'était aussi un élément important. Et puis, quatrième type d'enquête, c'est les enquêtes auprès des PLP stagiaires, puisque j'ai eu l'occasion pendant quelques années d'être formateur associé et puis maître de conférence à l'UFM. Donc je travaillais aussi avec des PLP donc en formation. Et donc, à partir de là, il apparaît la chose suivante. Toujours les élèves, cette idée de l'image paradoxale des lycées professionnels. On y voit, d'abord, les lycées professionnels ne sont pas une réalité homogène. Hein, je l'ai déjà dit, et donc je reviens là-dessus. Pourquoi c'est pas une réalité homogène? Parce que ça dépend de la taille du lycée professionnel, ça dépend de son emplacement. Est-ce qu'il est rural, semi-urbain ou urbain? La taille joue un rôle important parce que ça veut dire qu'on connaît les élèves plus que si c'était une grande structure. Et à titre d'exemple, je me souviens quand on avait commencé l'enquête sur l'abandon, c'était dans un lycée professionnel de 900 élèves. Et 900 élèves, quand on a commencé à faire la comptabilité avec CPE et le chef proviseur adjoint, je me souviens, s'est aperçu au fur et à mesure de l'importance et de l'ampleur de l'absentéisme et de l'ampleur aussi des ruptures scolaires. C'est-à-dire, la visibilité était plus complexe dans un établissement, évidemment, à taille qu'on pourrait qualifier finalement d'inhumaine. Donc, l'image paradoxale, violence, resocialisation. Donc, les enseignants sont effectivement, les élèves disent bien que on prend le temps, on l'explique, on peut parler aussi, donc c'est pas toujours aussi autoritaire, aussi strict que ce qu'on a connu au collège. Et la question aussi de la violence, c'est que il y a différents types de violences que les élèves rencontrent. La difficulté parfois à se positionner, les formes de violence aussi, c'est le fait que les élèves peuvent être effectivement assez réactifs vis-à-vis d'un certain nombre de contraintes. Donc les images de lycées professionnels sont, c'est un peu ce paradoxe, si vous voulez, c'est à la fois des lieux de pacifiques mais aussi des lieux où ça peut dégénérer. Donc voilà, c'est cette forme là qui donne lieu effectivement à des formes ou des réactions finalement ou des devenirs variés. Alors, deuxième élément aussi, entre chute et nouveau départ, ça c'est quelque chose de très frappant chez les élèves. Le lycée professionnel est vécu sur le mode de la rupture avec le collège, hein, et c'est pas la continuité, hein, cette forme de rupture. Et cette rupture, elle est aussi renforcée par le discours et les pratiques pédagogiques. Pourquoi ? Beaucoup de PLP, et je pense dans cette salle, il y en a quelques-uns qui s'y reconnaîtront. Finalement, ils essaient de mobiliser, motiver leurs élèves avec cette idée que il faut oublier un peu ce qu'on a vu avant. Il faut oublier un peu ce qu'on a connu avant, et donc il faut partir sur de nouvelles bases. Et donc cette idée de rupture, c'est nouveau départ. Mais un nouveau départ qui se paye aussi par un certain nombre de paradoxes. Par exemple, un des paradoxes qu'on peut rencontrer, c'est que les élèves disent, le lycée professionnel, on s'y sent à la fois élève, mais en même temps on s'y sent adulte. Hein, cette symbolique, être élève, être adulte, c'est pas la même chose. Être élève, c'est quand on est en classe, suivre des cours. Être adulte, c'est quand on est en atelier, en pratique. Et on est encore plus adulte quand on est en entreprise. Et comme dira un élève, ce qui est bien au lycée professionnel, c'est les stages qu'on fait en entreprise. Donc c'était une manière de dire, il y a une légitimité qui est plus reconnue au milieu professionnel par rapport au lycée professionnel. Alors, de ce point de vue, la question qui va être importante, c'est la question du rapport au savoir. Et je vais livrer ici un peu les observations qui me sont importantes, c'est-à-dire comment le rapport au savoir nous renseigne aussi sur l'expérience des élèves. Alors, c'est un concept que je vais présenter rapidement, de façon à ce que on visualise un petit peu, si vous voulez, les enjeux. Alors, la question les travaux sur le rapport au savoir, je m'inspire ici surtout de l'approche qui a été développée par Bernard Charlot sur la question du sens. C'est-à-dire qu'on part de l'idée suivante, c'est qu'au fond, un élève ne se mobilise à l'école qu'à partir du moment où il donne du sens aux études. Sens, finalité, utilité, consistance, hein, des contenus. Donc, quelque chose qui fait écho à un certain nombre d'interrogations, hein. Par exemple, l'enseignement, ex-enseignement, maintenant c'est devenu finalement prévention, sécurité, environnement, donc c'était vie sociale et professionnelle. Eh bien, vie sociale et professionnelle était un enseignement qui passionnait les élèves. Pourquoi il passionnait les élèves ? Parce qu'il disait, c'est un enseignement qui parle de la vie, qui parle de choses concrètes, qui parle de la justice, qui parle du contrat de travail, donc quelque chose qui fait sens. Ça ne va pas de soi quand on fait des mathématiques ou quand on fait peut-être moins pour l'histoire. Donc la question du sens, c'est aussi quelle signification l'élève donne au savoir et au fait d'aller à l'école et d'apprendre. Et donc on peut faire l'hypothèse suivante, c'est que le sens des études varie en fonction de l'origine sociale des élèves. Hein. C'est-à-dire si on est fils ou fille de médecin ou fils ou fille d'ouvrier, quand on arrive à l'école, entrer à l'école, c'est pas la même chose. Ça n'a pas le même sens, il n'y a pas forcément la même continuité ou discontinuité qui se produit. Hein. Je me souviens d'ailleurs, et c'est à titre anecdotique, d'une élève qui était issue de milieu ouvrier et qui était une excellente élève dans un collège et qui me dit ça m'embête parfois parce qu'en classe, je parle le patois, ça m'échappe. Et donc tous les élèves, parfois, ils rigolent, ils plaisantent. Donc il fallait pas, parce que c'est réalisé que si on parle avec des mots qui ne sont pas ceux acceptables à l'institution scolaire, c'est pas bon. Bon. Et donc, elle termine sa phrase en disant « Ah oui, mais de toute façon, ça m'énerve, mais je la connais très bien. Pourtant, je connais très bien le français, dit-elle. Je connais très bien la langue des fonctionnaires. » Et j'étais un peu surpris, parce que pourquoi elle parle de langue des fonctionnaires ? Parce que la langue des fonctionnaires, c'est typiquement le courrier que vous recevez de l'administration, qui est au courrier officiel, qui est un courrier extrêmement élaboré. Donc, ça veut dire, elle réalisait que lorsque on est à l'école, c'est pas la même posture intellectuelle qu'on doit adopter. Et donc, l'origine sociale, elle continue aussi à structurer le rapport à la formation et le sens des études. Alors, de deux manières, on considère que le rapport au savoir s'appréhende de deux manières. D'abord, L'idée, c'est que un élève, finalement, il s'engage dans les apprentissages parce que les apprentissages l'amènent aussi à changer, l'amènent aussi à avoir finalement une certaine un sentiment de réussite. C'est ce que Charlot appelle finalement le rapport identitaire, c'est-à-dire on apprend toujours pour quelque chose, pour quelqu'un. Donc ça, c'est la première dimension. Et puis la deuxième, c'est que chaque individu a une conception de ce que c'est qu'apprendre. C'est-à-dire, si vous demandez à des élèves du lycée professionnel qu'est-ce que c'est qu'apprendre pour vous, eh bien, vous allez voir, il y a des élèves qui disent « apprendre, c'est mémoriser », d'autres qui disent « apprendre, c'est comprendre », »,« apprendre, c'est savoir-faire », ou « je n'ai pas besoin d'apprendre, il suffit juste que je fasse ce que je dois faire pour pouvoir le faire ». Donc, en fait, il montre à l'évidence, à travers cette question, qu'il y a différentes manières de s'engager dans les savoirs, différentes manières de se mobiliser. Donc, le rapport au savoir, c'est à la fois une dimension identitaire et puis une dimension, ce que Charlot appelle une dimension épistémique. Et on voit donc, en interrogeant les élèves, qu'ils se positionnent de deux manières. Il y a ce que j'ai appelé finalement deux temporalités, hein, apprendre aujourd'hui et apprendre plus tard. Alors par exemple, quand on les interroge sur les savoirs professionnels et les savoirs l'enseignement général aussi, eh bien, ils font une distinction entre apprendre pour aujourd'hui et apprendre plus tard. Ce qu'on apprend, ce qui est le plus légitime, c'est en général tout ce qui est professionnel, tout ce qui est technologique, tout ce qui est aussi stage, comme on disait tout à l'heure. Donc il y a une hiérarchie de légitimité. Par contre, l'enseignement général, c'est plutôt pour plus tard, c'est plutôt pour pouvoir obtenir le diplôme, éventuellement si j'ai besoin de faire un CV, si j'ai besoin aussi de communiquer, si j'ai besoin aussi de par exemple, j'ai dans les entretiens, il y a des filles qui disent « Ah, c'est bien parce que j'ai fait de l'histoire du français, je pourrais aussi aider mes frères et sœurs, je pourrais aussi aider mes enfants, etc. » Donc, il y a une dimension aussi d'appropriation des savoirs pour les intégrer dans la vie, mais pas forcément en même temps, hein, pas forcément dans la même dimension. Et de ce point de vue, je reviens sur une chose, c'est que les élèves du lycée professionnel, on l'a vu, il y a à peu près, on peut dire, les trois quarts d'élèves qui n'ont pas choisi le lycée professionnel en général. Alors bien sûr, il y a des évolutions. Il nous faut effectivement des enquêtes un peu plus actuelles pour voir l'impact du bac professionnel. On voyait hier déjà qu'il y a déjà quelque chose de plus, d'un peu moins, si vous voulez, moins contraignant, et une orientation un peu plus choisie. Mais je prends un exemple de l'effet que ça peut avoir. Par exemple, cet élève donc que j'ai surnommé Kamel ici, qui était en BEP maintenant système mécanique automatisé et qui dit. En fait, j'apprends surtout à utiliser, voilà, je vais poser la question, qu'est-ce que c'est qu'apprendre? J'apprends surtout à utiliser et à réparer des machines. C'est important pour la fabrication. Mais en fait, je l'ai vu en stage, il faut soigner son travail, mieux communiquer avec les autres ouvriers. Il faut travailler en équipe. Donc, il est en train de dire comment autour de l'activité professionnelle, il y a des compétences. Donc, il est déjà en train d'intérioriser tout le modèle des compétences, comme vous le savez, qui sont des compétences assez planifiées entre concevoir, réaliser, s'informer, concevoir, réaliser et puis communiquer. L'autre élément aussi, alors par exemple Armand, qui était en BEP vente action marchande, et qui dit, voilà, quand je l'interroge sur qu'est-ce que c'est qu'apprendre, apprendre, en fait, au collège, j'ai appris tout ce qu'on doit apprendre. Alors, bon, lire et écrire, donc, c'est, bon, c'est ce qui apparaît souvent, d'ailleurs, dans les écrits comme dans les entretiens. Et en français, on fait comme au collège, on apprend les textes narratifs, le passif, l'actif, et les trucs comme ça. Et puis, il dit finalement, maintenant, j'aime bien les maths. Avant, je détestais. En fait, ça nous sert en pratique. Donc, ça veut dire qu'il parvient à trouver que les savoirs ont un pendant pratique, en tout cas opérationnel, et ça nous sert en pratique quand on fait des calculs, des stocks, etc., puisque bon, il parlait un petit peu de tout ce qui est logistique en vente. Et on a beau savoir, si on ne le met pas en pratique, dit-il, ça ne sert à rien, en fait. Donc, en fait, il est bien dans cette posture de l'élève qui donne un sens dès lors que ça a quelque chose de pratique, en tout cas, ça me parle. Mais il y a une autre dimension implicite dans ce qu'il est en train de dire, c'est que l'élève réalise, il réalise, en réalisant, j'ai envie de dire, qu'il est capable de réussir. Et ça, la dimension, hein. C'est-à-dire que le savoir, il s'incarne dans l'action, et c'est pas un savoir qui est détaché ou désincarné, hein. On est à l'opposé de ce qu'a dit un élève à Charlot quand il avait enquêté sur un collège de Saint-Denis, un élève qui dit, j'aime bien les mathématiques parce que ça sert à rien. Hein, il était complètement, si vous voulez, dans le. Hein, voilà, j'étudie des choses qui ne sont. Il est un peu très détaché, un peu le futur héritier dont parlait Pierre Bourdieu. Alors, donc, cette dimension de grandir au lycée professionnel, je passe un peu sur ce point. Donc, les élèves se sentent un peu plus adultes au lycée professionnel, ce qui d'ailleurs n'est pas sans soulever des questions, parce que souvent, le sentiment de grandir, ça veut dire « je deviens mature », ça veut dire aussi une manière de mettre à distance le milieu familial, c'est ça. Quand tu dis finalement je grandis au lycée professionnel, c'est ce que disent par exemple les enseignants ou les CPE. Ils disent finalement les élèves parfois quand on dit on voudrait voir tes parents, etc. Mais non, je suis adulte. Donc c'est une dimension du statut d'adulte comme interlocuteur. Et donc là il y a quelque chose qui se joue. C'est pas seulement l'adolescence, c'est aussi un rapport, si vous voulez, à l'institution scolaire qui est en modification. Alors une des difficultés aussi observées auprès des élèves, c'est la question de l'alternance, c'est-à-dire les stages en entreprise qui apparaissent parfois comme concurrents et pas forcément complémentaires. Et donc, par exemple, les élèves valorisent beaucoup les stages parce qu'ils disent bah, « finalement, on n'est pas dans une relation de domination ». C'est pas le prof et l'élève, donc c'est une forme comme si on était à égalité. Évidemment, on sait très bien qu'ils sont pas à égalité, mais ça veut dire aussi qu'il y a autre chose qui se joue, c'est que le stage apparaît plus légitime aux élèves parce qu'ils sont dans l'activité effective et réelle, comme ils disent. Et donc l'activité réelle, c'est pas l'activité du savoir comment faire. C'est ce qu'on apprend au lycée professionnel, savoir comment, les démarches, plus que le produit réalisé. Et à ce propos, d'ailleurs, je trouve que dans l'intervention collègues avant-hier sur les lycées professionnels qui ont une unité qui sont à la fois une unité de production ou qui travaillent en partenariat avec des entreprises, ça facilite sans doute aussi une meilleure articulation que d'ailleurs j'ai observé aussi chez les élèves des sections hôtelières, parce que les sections hôtelières, ils ont un restaurant d'application et la différence entre le lycée professionnel et la vie professionnelle, elle est extrêmement réduite parce que pour eux, ils y sont et d'ailleurs, ils y sont fièrement souvent puisque c'est une des filières les plus valorisées dans les lycées professionnels. Et donc, de ce point de vue, on peut aussi souligner une chose rapidement, c'est qu'il y a des différences aussi entre filles et garçons au lycée professionnel. Par exemple, les filles sont beaucoup plus, alors elles sont majoritairement scolarisées dans les filières tertiaires, mais pas seulement. Quand on prend garçons et filles dans la filière tertiaire, ils n'ont pas les mêmes attentes vis-à-vis des enseignants. Par exemple, les filles sont beaucoup plus exigeantes vis-à-vis des difficultés cognitives, compréhension, pédagogie de l'enseignant. Les garçons sont beaucoup plus vers cette idée de l'opposition. Ce serait bien que le professeur nous parle d'autre chose que tout le temps des cours. Et donc cette forme, si vous voulez, de familiarité qu'on recherche, qui est de... Voilà, on n'est pas là seulement, il ne faut pas que ce soit seulement une relation d'imposition contraignante, une relation seulement d'imposition de savoir ou de connaissance. Alors les formes de rapport au savoir, voilà, quand on interroge les élèves à partir d'un tableau, si vous voulez, une configuration, une typologie. On peut remarquer qu'il y a quatre formes. Voilà ce que j'avais découvert. Il y a effectivement ce que j'ai appelé un rapport pratique au savoir, une forme de rapport pratique, c'est-à-dire j'apprends à partir du moment où ça répond à quelque chose de professionnel ou quelque chose dans la vie. C'est-à-dire si je fais des mathématiques appliquées qui me permettent aussi de comprendre, de faire des calculs, de comptabilité, des choses comme ça, ça paraît légitime. Si, par contre, c'est plus éloigné de la pratique, plus éloigné de l'expérience, c'est moins légitime. Donc, il y a une forme, si vous voulez, de défiance vis-à-vis des savoirs qui peuvent être paraître un peu désincarnés. Et à ce propos, ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette forme de rapport pratique peut être parfois, sans le vouloir, renforcé par les pratiques pédagogiques. C'est quand on dit « il faut que les savoirs soient strictement parlants, il faut que ce soit ouvert sur la pratique », évidemment, ça peut aussi empêcher l'élève de se distancier. Or, on sait que les savoirs, je veux dire, les savoirs ne sont pas tous pratiques. Et donc ça, c'est un peu, il peut y avoir effectivement un malentendu autour de cette question. Il y a une deuxième forme que j'ai appelée la forme « un rapport réflexif au savoir », c'est-à-dire les élèves qui s'intéressent, au contraire, à l'enseignement général et sans négliger l'enseignement technologique et professionnel. Alors pourquoi ils s'intéressent à l'enseignement général ? Parce qu'ils réalisent qu'ils peuvent réussir là où ils ont échoué au collège. C'est-à-dire que dans les entretiens, on le voit très vite, des élèves qui disent « Ah oui, mais alors je me suis aperçu que, voilà, je comprends mieux les identités remarquables alors qu'au collège, je comprenais pas grand-chose. Je comprends mieux maintenant pourquoi est-ce qu'on fait les vecteurs, par exemple, je sais pas moi, pour étudier les phénomènes en physique. » Donc voilà, l'élève commence à dire « Tiens, je suis capable de réussir. » Mais alors, ce qui se joue, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est important de voir quelles sont les pratiques pédagogiques, c'est que les enseignants de lycée professionnel, même s'il y a une évolution, j'y reviendrai tout à l'heure, ils intègrent cette dimension il faut travailler autrement. Moi, quand j'ai assisté à des cours de maths, par exemple, je voyais des profs qui utilisaient beaucoup de visualisations, ils utilisaient des exemples concrets. Voilà, si vous voyez, on va montrer un petit peu le lien qui existe entre les objets qu'on va construire et l'étude des angles, par exemple. Donc l'élève, tout de suite, il réalise, voilà, à travers ce qu'on appellera un enseignement inductif. Or, l'enseignement inductif, c'est ce qui a fait l'histoire de l'enseignement technique et qui, à mon avis, s'est un petit peu perdu à travers les réformes, notamment de la formation des enseignants. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc voilà, rapport réflexif au savoir, et ce sont des élèves qui sont plus dans cette idée de « je réussis là où j'étais en difficulté au collège ». Troisième forme qui est une forme critique, rapport des impliqués, c'est-à-dire l'élève qui est plutôt passif, qui est plutôt pas passif au sens où il est passif dans la vie scolaire, mais il ne se mobilise pas scolairement, donc j'ai appelé cela une forme des impliqués. C'est ce qui caractérise en grande partie ce qu'on appelle, entre guillemets, les décrocheurs, c'est-à-dire les élèves qui sont plutôt en retrait et qui sont souvent dans une forme d'opposition à l'institution scolaire. Je refuse, je n'entre pas dans les apprentissages. Et donc, ils sont souvent, si vous voulez, très, très sensibles à des remarques, par exemple. Donc, c'est-à-dire qu'en général, ils peuvent être dans une forme, si vous voulez, j'ai appelé ça, ils sont dans une forme d'opposition dans la relation. Et donc, la relation fait écran au savoir. C'est-à-dire, on s'est un peu plus dans la distance, dans la critique et dans le repli. Et puis, la quatrième forme, qui est plus rare en lycée professionnel, que j'ai appelé un rapport intégratif évolutif, c'est-à-dire des élèves qui parviennent, sans hiérarchiser entre les différents savoirs, qui parviennent à mettre en dialogue les différents contenus. Et donc, mettre en dialogue les différents contenus, c'était, en fait, ce sont des élèves qui, à leur manière, réalisent de leur point de vue l'objectif des PPCP avant, c'est-à-dire ils parviennent à mettre en lien différents contenus de façon presque, si vous voulez, presque inconsciente. Alors par exemple, un exemple très très typique, c'est chez les élèves de section hôtelière, ou je l'ai remarqué aussi chez les élèves de carrière sanitaire et sociale, ce sont des élèves qui finalement disent « c'est bien de savoir, parce que savoir, c'est aussi maîtriser des relations aux autres ». Et c'est vrai que quand on dit « maîtriser des relations aux autres », qu'il s'agisse d'une relation professionnelle, ou qu'il s'agisse d'une relation d'échange habituelle ou ordinaire, eh bien, le savoir, c'est aussi une façon d'avoir du pouvoir. C'est ça, l'idée. Donc, en fait, on est toujours cette possibilité de dialogue. Et c'est pour cela, d'ailleurs, c'est pas pour enfoncer, j'ai envie de dire, une porte ouverte. C'est qu'il me semble qu'une des difficultés de lycée professionnel, c'est aussi comment faire en sorte que les élèves mettent en articule les différents contenus sans avoir l'impression que c'est juxtaposé entre l'atelier, entre la pratique, entre les stages, entre la théorie. Alors bien sûr, c'est une opposition qui est beaucoup plus visible, par exemple, dans les formations industrielles que dans les formations tertiaires. Rapidement, dans les entretiens avec les élèves, dimension de l'altérité, le rôle que joue indiscutablement la famille. Alors il y a bien sûr expérience socio-familiale et expérience scolaire. Et à ce propos, je tiens à dire que j'ai découvert des choses que la sociologie n'a pas véritablement travaillé. Il commence à y avoir quelques travaux là-dessus. C'est que j'ai pas travaillé sur la sociologie de la famille, mais je remarquais dans les entretiens avec les élèves jusqu'à quel point les parents ne sont pas d'accord. C'est-à-dire que souvent, on présente les familles comme un univers homogène et on s'aperçoit dans le discours des élèves que le père n'était pas forcément d'accord pour que je sois dans le lycée professionnel, ou la mère, dans le cas présent. Et je pense particulièrement à une fille qui était seule, fille dans un bac pro électrotechnique, et qui me dit, de toute façon, ma mère a toujours pensé que le lycée professionnel, c'est pas fait pour les élèves normaux. Et elle rajoute, quand elle dit ça, mon père, il prend pour lui, et je vois très vite qu'il n'est pas à l'aise, qu'il n'est pas bien, parce que mon père est ouvrier, donc il racontait un peu le... Et donc, en fait, pour comprendre pourquoi il dit cela, il a fallu aussi savoir un peu quel est le parcours de la fratrie. Alors, quand elle dit « j'ai mon frère qui fait la classe préparatoire littéraire » et un autre qui était en terminale scientifique, évidemment, ça renforce, si vous voulez. Donc là, on est bien dans cet univers familial qui n'est pas un univers homogène. Et ça, c'est très important, contrairement quand on dit les familles, toujours de façon très générale, très vague. Bon, la deuxième chose, c'est que tous les élèves interrogés me disent les attentes des parents vis-à-vis de l'école. Une forte attente vis-à-vis de l'école. Et Vincent le disait hier, effectivement, le discours dominant qui consiste à dire les familles sont démissionnaires, c'est un discours qui va très très vite. Parce qu'on imagine très bien que ne pas voir des parents lors des réunions parents-professeurs, pourrait donner lieu, effectivement, à une interprétation comme une sorte de désintérêt, des implications. En fait, c'est beaucoup plus complexe. Hein. C'est que dans les milieux populaires, si je prends l'exemple des lycées professionnels, les parents font confiance davantage à l'école. Ils disent souvent, ce sont eux qui savent. Alors, si ce sont eux qui savent, vous comprenez, c'est pas comme chez les enseignants. Les enseignants sont, c'est une des catégories les plus méfiantes vis-à-vis du système scolaire. Hein. C'est-à-dire, bon, si on fait trop confiance, on sait que ça peut être aussi un jeu de dupes. Donc, les parents, en faisant confiance, quand vous faites confiance, vous avez plus de chances d'être déçu si ça ne marche pas. Et c'est pour cela que des parents peuvent avoir un comportement parfois violent, excessif, quand ils viennent à l'institution, parce que c'est le malentendu. On vous a fait confiance et vous avez vu, du coup, voilà. Alors les enseignants disent, oui, mais nous, on peut pas tout faire, évidemment. Mais voilà, c'est ces malentendus qui contribuent aussi, si vous voulez, à ces tensions. Donc, attentes, fortes attentes vis-à-vis de l'école. Autre élément aussi qu'on néglige, c'est qu'il y a des élèves qui réussissent en lycée professionnel en ayant l'impression que c'est une réussite aussi vis-à-vis des parents, et cette réussite vis-à-vis des parents se fait aussi de façon intergénérationnelle et par étapes. Des élèves qui disent, moi j'ai rencontré des élèves de différents âges, d'une même fratrie, ah je m'arrête au BEP, le second dit, ah viens, je vais aller au bac pro, le troisième je vais aller au BTS, donc en fait il y a des effets intergénérationnels sur les ambitions scolaires, et c'est là-dessus qu'on peut aussi comprendre hein, le rapport à la formation, le rapport aux études. Et enfin, troisième dimension qui va m'amener au deuxième point, sur la professionnalité des enseignants. J'essaie d'aller un peu vite, mais de repérer un peu les points essentiels, c'est justement le rôle que les enseignants ont pour les élèves. Et là, ça interroge effectivement la professionnalité. Les élèves, globalement, sont plutôt élogieux vis-à-vis des enseignants. Alors, bien sûr, ils peuvent dire, voilà, il y a un enseignant qui est tout le temps derrière nous, tout le temps après nous. Il y a des enseignants qui finalement s'interrogent beaucoup sur notre vie privée, ça les regarde pas, etc. En fait, il y a des malentendus parce que les enseignants disent, il faut prendre les élèves de façon un peu plus humaine, plus relationnelle, etc. Et donc, ça m'a amené à m'interroger sur comment font les enseignants pour mobiliser leurs élèves. Il y a à la fois donc l'éloge et en même temps la volonté de conserver la distance. Hein. Alors hier, on a eu effectivement l'exposé sur la distance, la bonne distance, et j'ai envie de dire, les élèves aussi sont très soucieux de cette bonne distance. Hein. Par exemple, l'enseignant, c'est l'enseignant. Hein. C'est pas le camarade. Même quand il y a une proximité spatiale, il a un rôle, et c'est lui qui sait, c'est lui qui doit effectivement organiser, c'est lui qui impose plus ou moins une forme d'autorité, donc il a une légitimité, mais c'est une légitimité qui tient aussi à la capacité à tenir compte de leurs difficultés tout en les mobilisant scolairement. Alors, voilà, deuxième enquête rapidement, quand on a une enquête auprès des enseignants de lycée professionnel, d'abord, première chose que je vais dire en guise d'introduction, là aussi il y a un changement, comme vous le savez, les enseignants de lycée professionnel se recrutent moins aujourd'hui parmi les anciens professionnels hein, de l'industrie ou du commerce ou qui ont une activité professionnelle, et ils se recrutent de plus en plus parmi les étudiants sortant des universités. Donc on peut faire l'hypothèse, effectivement, que ce changement induit aussi un rapport différent au public. Alors pourquoi ? Premièrement, parce que l'élévation des niveaux de recrutement des enseignants, c'est aussi forcément une élévation, ou en tout cas un recrutement qui va être un peu moins populaire. Hein, évidemment. Donc ça veut dire qu'on va recruter des enseignants plus issus des classes moyennes que des milieux populaires. Hein, quand on voit les statistiques, on voit très vite que si vous mettez... Alors surtout maintenant, parce que là, à l'époque, quand j'ai enquêté, c'était en 2007-2008 auprès des enseignants, c'était encore hein, l'ancienne formule UFM. Bon, là, avec la masterisation... Ça va se renforcer. C'est-à-dire, dès lors que vous élevez le niveau de recrutement, vous avez un recrutement un peu plus, entre guillemets, élitiste, voilà. Hein, donc, des gens de milieu classe moyenne. Donc, la conséquence qu'on peut présupposer, c'est qu'il y a deux conséquences. La première, c'est que la légitimité des enseignants ne peut plus reposer seulement sur le savoir professionnel. Hein, on ne peut plus parler au nom de son expérience. Il hein, y a un enseignant de lycée professionnel et des enseignants ancienne génération, comme on dit, qui dit, voilà, j'ai fait un parcours, j'étais ouvrier, je suis devenu technicien, j'ai passé concours, et puis j'ai gardé des contacts avec les entreprises, donc je travaille aussi ensemble. Donc c'est quand même une sorte de continuité, si vous voulez, entre mon expérience et la mise en œuvre d'activités pédagogiques. Donc voilà, cette expérience n'est plus forcément le repère. Deuxième changement, évidemment, c'est d'un point de vue plus sociologique, c'est que les enseignants ne viennent plus de milieux qui ressemblent en partie à ceux des élèves. Hein, donc c'est un peu le recrutement classe moyenne n'est pas bon. Donc éventuellement, je ne dis pas qu'il y a une relation mécanique, hein, parce que les cas de figure sont extrêmement variés, mais on peut faire l'hypothèse qu'il peut y avoir des malentendus entre les élèves et les enseignants. Hein, on ne comprend pas le public. Et on se retrouve, si vous voulez, devant cette situation où, finalement, après avoir partagé avec leurs élèves dans les anciennes générations ce que j'ai appelé évidemment une proximité culturelle, hein, on venait de milieu ouvrier, donc j'avais en face de moi des enfants de milieu ouvrier, donc je leur disais toute la discipline, tout l'apprentissage, c'est pour votre bien et je veux former le futur homme, travailleur, on l'avait entendu hier, donc le travailleur, l'homme et le citoyen. Là, cette proximité culturelle laisse place plutôt à ce que j'appellerais une proximité de conditions. Proximité de conditions, c'est-à-dire que les nouveaux enseignants des lycées professionnels partagent avec leurs élèves le fait d'enseigner dans une institution qui est moins bien vue dans l'institution scolaire, qui est moins visible. Alors hier, c'est assez, disait Vincent, mais je ne vais pas parler à sa place, mais quand il disait finalement, il était un peu surpris par la méconnaissance qu'on peut avoir au sein de l'institution scolaire de ce qui se fait dans le lycée professionnel. Donc cette proximité de conditions peut conduire à deux conséquences. Soit les enseignants estiment que le métier, c'est aussi la réussite professionnelle, c'est aussi la réussite des élèves, et dans ce cas, je mobilise, donc c'est une dimension de l'engagement. Beaucoup de PLP, y compris ceux qui sont issus des classes moyennes ou plus favorisées, vous disent dans les entretiens, et on les voit, moi, mon objectif, c'est que mes élèves s'en sortent et s'émancipent. Donc c'est une forme, si vous voulez, d'engagement. Soit la deuxième forme, qui est bien connue des travaux sociologiques, consiste à dire je ne me mélange pas avec mon public, c'est une forme assez rare, mais qui existe, et dans ce cas, je mets une distance avec le public. Hein. Et donc cette distance peut être aussi traduite et interprétée par les élèves comme une forme de mépris, parce que la condition professionnelle conduit effectivement à un rapport qui n'est pas forcément maîtrisé, c'est pas parce que les enseignants sont méprisants, mais c'est parce que les conditions de travail, les conditions institutionnelles ne les préparent pas forcément à tenir ce rôle, qui bien sûr est un rôle qui s'apprend. Hein. Et il y a toute une littérature anglo-saxonne qui débouchait déjà il y a longtemps, qui remarquait finalement tomber un petit peu sur les mêmes observations. Et donc voilà, à partir des entretiens, cette évolution est quand même importante. Donc aujourd'hui, on peut se poser la question sur la formation des enseignants. Quels sont les éléments qu'il faut prendre en compte pour former des enseignants dès lors qu'il y a une évolution dans le recrutement, dès lors aussi que le public a changé, comme on disait tout à l'heure, avec sans doute une polarisation des publics de lycées professionnels, les bacs pro d'un côté et les CAP de l'autre. Dans les entretiens, on s'aperçoit que les enseignants sont en général, perçoivent les élèves comme étant en difficulté socio-familiale et culturelle. D'ailleurs, dans les différentes interventions, on l'a entendu. Il y a aussi une certaine disqualification des parents, ou ce que j'ai appelé d'un difficile partenariat. Alors la disqualification, C'est pas méchant, hein, ce que je veux dire. C'est que dans la relation qu'on a avec les parents, les PLP ont tendance, les enseignants, j'ai PLP, mais aussi l'équipe éducative, ont tendance à dire, finalement, les parents ne peuvent pas aider nos élèves, donc c'est nous qui allons les aider. Hein. Si vous voulez, le paradoxe, c'est que souvent, et d'ailleurs dans d'autres structures, c'est un peu le même raisonnement, le paradoxe, c'est que dès lors qu'on dit, finalement, le milieu social ne peut pas, voilà, du coup, on endosse une responsabilité encore plus importante. Et c'est, à mon avis, ce qui explique en partie ce qui a été dit hier dans un des ateliers, une des interventions, à savoir jusqu'à quel point l'enseignant peut-il aller pour lutter contre le décrochage, gérer l'hétérogénéité, etc. Donc c'est ces éléments qui interviennent. L'absence du client idéal, ça c'était l'expression de Howard Becker, donc sociologue américain, qui dit finalement les PLP, enfin les enseignants des écoles américaines sont souvent en attente d'un client idéal. Alors client idéal, c'est une expression utilisée par Becker pour dire les enseignants s'attendent toujours à ce que les élèves soient engagés dans les apprentissages et à la limite qu'ils soient élèves avant même d'entrer à l'école. Hein. C'est des enquêtes effectivement qui montent dès l'école primaire. Et donc il n'y a pas cette image du client idéal parce qu'ils partent du principe, comme je disais tout à l'heure, qui vont travailler avec des élèves en difficulté, mais quelle est la nature de la difficulté? Est-ce qu'elle est cognitive? Est-ce qu'elle est didactique? Est-ce qu'elle est pédagogique? Est-ce qu'elle est familiale? On voit très vite que la notion de difficulté est elle-même problématique. Et donc, à certains égards, cette distinction induit finalement à l'idée suivante. Les enseignants au lycée professionnel considèrent que l'ELP est une institution salutaire pour les élèves. Donc il y a quelque chose de paradoxal. Alors qu'est-ce qui est paradoxal? C'est que dès lors qu'on disqualifie un peu le milieu familial, en disant finalement, on peut pas trop compter sur eux. Et c'est pas seulement une disqualification qui repose sur la notion d'absence des parents. Hein. J'ai des entretiens, par exemple, où les profs vous disent voilà, j'ai reçu les parents, et quand tu les vois, ben, tu as vite compris que de toute façon, il faut pas compter sur eux. Donc c'est pas la présence, hein, c'est plutôt le bon. La disqualification, c'est aussi les malentendus. Alors un exemple que je vais vous donner, quand on a fait l'enquête sur l'absentéisme et l'abandon, une CPE qui me dit, tu vois, ça, cet élève-là, il est soutenu par ses parents parce qu'il ne vient pas à l'école, il reste à la maison. Quand j'ai appelé pour avoir des informations, effectivement, je tombe sur la mère qui me dit, mon fils, il est à la maison et il avait abandonné en deuxième année BEP, c'était au mois de mars. J'attends le mois de septembre pour faire un dossier d'éducation récurrente à l'époque pour reprendre des études. Donc évidemment, vous vous êtes surpris, vous dites, bon, sa place est quand même d'aller à l'école. Et en fait, quand vous creusez, elle vous dit, bah oui, effectivement, pourquoi vous ne l'envoyez pas à l'école? Eh bien, parce que j'ai appris quand il allait à l'école. En fait, il n'allait pas à l'école. Il allait se promener toute la journée, il avait de mauvaises fréquentations. Donc, comme j'ai peur qu'il devienne délinquant, je préfère le garder à la maison. Si on appelle et on dit, bah, vous voyez, elle le garde, donc du coup, elle le soutient, il faut essayer de comprendre pourquoi. Et on s'aperçoit effectivement que la logique de protéger, c'est pas une démission, c'est la crainte qu'il devienne délinquant, d'autant plus que le lycée professionnel était à 15 km et que cette dame n'avait pas de moyens de locomotion, on pouvait même vérifier qu'il est bien entré au lycée professionnel, etc. Donc les malentendus entourent aussi cette relation qui induit donc ce paradoxe. Comme on ne peut pas compter sur la famille, comme on ne peut pas finalement compter sur un environnement, eh bien on va favoriser une réussite par le lycée professionnel. Alors ça induit des choses assez particulières que vous connaissez, telles que par exemple, faut pas donner de devoirs aux élèves, parce que de toute façon ils vont pas les faire. Ça induit aussi des conséquences telles que il faut pas trop les surcharger, ils ont des difficultés familiales telles que, voilà. Donc du coup, le lycée devient un lieu de formation. Alors bien sûr, les élèves l'intériorisent de la manière suivante. Ils vous disent, je n'apprends pas à la maison. Pourquoi je n'apprends pas à la maison? Parce qu'il y a des choses que je ne peux pas apprendre à la maison. C'est des choses que j'apprends par la pratique ici. Donc une forme, si vous voulez, de clôture symbolique du lycée professionnel qui s'institue et qui fait que, effectivement, le discours et les pratiques sont très orientés vers l'idée de sauver des publics. Deuxième élément, je prends l'exemple de cette enseignante de PLP, donc de comptabilité, qui dit, voilà, nos élèves ne peuvent pas laisser à la porte du lycée ce qu'ils vivent chez eux. C'est humain, surtout quand on voit ce qu'ils vivent chez eux. C'est-à-dire le fait qu'il faut tenir compte de la difficulté, qui n'est pas seulement une difficulté intellectuelle, qui n'est pas seulement une difficulté cognitive ou didactique, c'est la difficulté des élèves de faire à partir de ce qu'ils sont. Et donc faire à partir de ce qu'ils sont, c'est sans doute ce qui rend les choses plus difficiles. Hein. J'ai vu, évidemment, c'est beaucoup plus facile, et j'en suis conscient, de faire un cours face à un amphi d'étudiants de 500 étudiants, beaucoup plus facile que de dire, je vais tenir compte de la difficulté de chacun. Et nous le voyons d'ailleurs dans des structures comme les IUT, où nous avons, comme je disais hier, des élèves, quelques-uns qui sont passés par le lycée professionnel, ou la voie technologique aussi, qui ont des difficultés. Et la proximité pédagogique permet de résoudre un certain nombre de problèmes, mais évidemment, elle est, en termes d'implication, elle est plus impliquante, si je puis dire, plus éprouvante que si je fais cours, évidemment, de façon distanciée ou de façon, on va dire, c'est presque comme si je faisais cours sans qu'il y ait d'élèves en face. Et donc, parmi les pratiques, je vous donnerai des références pour ceux qui le souhaitent, il y a effectivement cette socialisation au savoir-être comme manière de faire de l'éducation qui apparaît importante. Mobiliser aussi sur les savoirs malgré l'orientation, donc c'était aussi un élément important. Et là, j'ai fait un texte tout à l'heure, un extrait d'entretien pour les ateliers. Vous verrez un peu un exemple, hein, mais c'est pas un modèle, mais vous dire un petit peu comment ça se passe. Valoriser la réussite et enseigner du concret comme stratégie aussi pour mettre du sens. Et à partir de là, on peut dire, voilà, cette question de la finalisation des savoirs qui apparaît comme une manière de mobiliser les publics. Et donc, voilà, je prends un exemple ici d'un entretien encore, donc un PLP de maintenance qui disait, les élèves, s'ils sont pas motivés, ça traîne beaucoup, les élèves tournent un peu en rond, PPCP ne les intéresse pas, donc il prend l'exemple, finalement, quelque chose qui n'intéresse pas parce qu'on est dans cette injonction, hein, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire faut s'approprier une mesure pour pouvoir la mettre en œuvre, et puis ils ne voient pas l'apprentissage qui est derrière, il faut donc qu'on leur dise à quoi ça sert, C'est un peu une pédagogie de l'explicite, hein, en explicitation, qui devient aussi un outil pour mobiliser les élèves, mobiliser les publics. Alors, je vois que Sabine s'inquiète, et donc je vais rapidement conclure. Alors, je vais conclure parce que je voulais parler de l'abandon, mais on aura l'occasion tout à l'heure, la discussion. Voilà. Alors, ce qui me semble important, c'est que je voulais dire un mot en prenant un peu cette question-là, c'est-à-dire sur la formation des enseignants aujourd'hui. Je disais le troisième élément sur les enjeux. Je passe un peu sur l'absentéisme et l'abandon. Après. J'ai repris un peu. Vous savez, il y a eu un numéro des cahiers pédagogiques sur le lycée professionnel. Et en fait, il apparaît quatre dimensions que j'ai relevées en lisant toutes les contributions. Voilà, les dimensions notamment du lycée professionnel aujourd'hui. D'abord, l'élément qui apparaît pour une partie des enseignants, c'est préoccupation, l'accueil des élèves, leur accompagnement par rapport à l'orientation qui est le plus souvent contrainte en fin de collège. Alors bon, ça c'est un premier point. La rénovation de la voie professionnelle, nouveau programme, effet sur le travail des enseignants. Et c'est vrai que là aussi... j'ai envie de dire, c'est un peu comme disait Michel Certeau, c'est un petit peu l'invention du quotidien, c'est-à-dire comment l'institution détermine un certain nombre d'objectifs en demandant aux gens de construire les moyens d'y parvenir. Donc dès lors qu'on construit les moyens d'y parvenir, le métier s'invente tous les jours, mais il ne faut pas l'inventer indépendamment d'une collectivisation du métier. Hein. C'est-à-dire le métier, ça doit être une affaire aussi collective. Et pas une affaire individuelle. Et donc, c'est aussi parce que le risque aujourd'hui, c'est de dire les enseignants, tout repose sur les enseignants. Et les enseignants, il faut aussi qu'ils aient les appuis nécessaires pour construire leur professionnalité. Et donc, la rénovation, ça veut dire aussi comment on invente. Et là, j'ai retrouvé, par exemple, comment on recourt à des techniques comme les TICE sur les TIS, comme on dit, pour mobiliser les élèves. Troisième axe aussi, les manières de s'affilier au métier d'enseignant chez le nouveau PLP. Et là, c'est un vrai problème, c'est un chantier actuellement sur la formation des enseignants dès lors qu'elle devient plus universitaire. L'université n'est pas, pour le moment, la mieux placée pour former des futurs PLP, ni d'ailleurs des futurs enseignants. Hein. Mais voilà, il y a effectivement une dynamique qui s'enclenche. Et donc, à savoir comment, d'un côté, le savoir... C'est pas seulement le modèle de la qualification qui prédomine dans le recrutement des enseignants, c'est-à-dire connaissances disciplinaires. Comment ces connaissances disciplinaires, comment peuvent-elles aussi donner lieu à une évaluation dans le recrutement des compétences professionnelles? Comment faire aussi pour accompagner des nouveaux enseignants qui découvrent d'ailleurs pour beaucoup d'entre eux le lycée professionnel ou comme disait un professeur stagiaire, dit c'était la voie à éviter quand j'étais au collège, on me disait toujours travaille bien sinon tu seras orienté. Et puis la quatrième axe, c'est la lutte contre le décrochage, effectivement, qui émerge comme un objet en soi et qui mobilise des équipes et interpelle les lycées professionnels dans sa mission de qualification professionnelle scolaire. Je dois dire que depuis 5-6 ans, c'est un peu, si vous voulez, comme si les lycées professionnels ne se déterminaient que par le décrochage. C'est d'ailleurs mon étonnement et ma remarque le premier jour. C'est pas seulement le lieu de décrochage, c'est aussi le lieu de la mobilisation. Et donc... dans l'enquête qu'on a pu faire sur l'abandon en cours de formation, on s'était dit, dès le départ, faut-il utiliser le terme de décrocheur dès lors qu'on n'est même pas sûr que les élèves se sont accrochés?